tuk, tuk, tuk. Et deux mesures piano, comme écho. Encore une fois.
Sur France Culture, vous passez par Continent Musique, émission Machine et autres synthétiseurs passés, présents et futurs de la musique électronique. Alors que se tenait la Paris Electronic Week à la Gaîté Lyrique et que s'achève bientôt l'exposition Electrosound, visite au cœur de la fondation EDF avec le musicien Jonathan Fitoussi, guidé par Jean-Yves Leloup, co-commissaire de l'exposition qui nous racontera l'histoire et les usages et l'impact de machines comme le Térémine, le synthétiseur Boucla ou encore le vocodeur, balade très sonore au sein d'une exposition qui donne aussi à voir des outils de lutherie contemporaine avec lesquels on peut jouer. Et ils auraient bien aimé, me l'ont-ils confié, vous emprunter votre Molf Emmanuel Gibello, pour prononcer Gibello parce que c'est sicilien.
Oui.
Emmanuel Gibello, compositrice à l'origine d'un instrument qui fonctionne avec des toupies pour archet. Emmanuel Gibello, vous êtes venu avec votre Phonoff et votre Molf. Enfin, il y a deux outils que vous nous présenterez tout à l'heure dans nos studios. On écoutera une de vos pièces en quadriphonie. On reviendra sur le binaural, la spatialisation du son. Pourquoi est-ce que vous ne pouviez pas leur prêter votre Molf et votre Phonoff?
Phonoff, parce que ce sont mes outils de composition et je travaille avec très souvent. Donc c'était difficile de les laisser pour 3 mois. La durée de l'exposition, malheureusement.
On vous écoutera justement le jouer dans le studio. On évoquera aussi votre parcours de compositrice et d'auteur, Emmanuel Gibello, puisque l'écriture et la littérature tiennent une part importante dans votre travail. Qui a dit que la musique électronique n'avait rien à dire? On va commencer par la visite avant de revenir au studio. Continuons musique et clic. Popcorn, un des premiers succès populaires de musique électronique, signé de l'allemand Gershon Kingsley. C'était composé en 69 avec un synthétiseur Moog, ou Moog, hein, comme son inventeur, Robert Moog. Sa version la plus célèbre, c'est celle que vous entendez. Elle date de 72 par Hot Butter. Voilà, ça c'est un des nombreux titres que vous pourrez entendre en déambulant dans l'exposition Electrosound, Machine, Musique, Culture, avec un S, qui est présentée à la Fondation EDF à Paris. Il vous reste une semaine pour la visiter. Autrement, je vous recommande la lecture du très beau catalogue qui est édité aux éditions Le Mot et le Reste, avec notamment quelques photos des instruments dont on va parler et puis plusieurs articles de fond. Notre guide, c'est Jean-Yves Leloup, co-commissaire de l'exposition, journaliste et acteur de la scène électronique en tant que DJ ou avec Radio Mental. À ses côtés, Jonathan Fitoussi, musicien féru de synthétiseurs analogiques et modulaires, l'Ondioline, l'EMS, Synthi, AKS. Vous verrez, vous entendrez tout ça. Et la visite commence par le Térémine et Camille Saint-Saëns.
La l'instrument le plus ancien qui est présent dans l'exposition et qui est exposé dès l'entrée, c'est effectivement le thérémine.
Jean-Yves Leloup.
Un thérémine de 1929, quand il a commencé à être construit en série aux États-Unis par RCA, quand Léon Thérémine s'est expatrié aux États-Unis, en tout cas fait une sorte de tournée triomphale pour présenter son instrument.
Lui, à l'origine, c'est un ingénieur russe.
Oui, c'est un ingénieur russe qui avait été très soutenu par le pouvoir soviétique parce que cet instrument faisait la démonstration du pouvoir ou de la capacité d'innovation de la technologie russe. Alors, ce qui est intéressant avec le thérémine, c'est que c'est un instrument qui produit des sons littéralement inouïs, au sens jamais entendu, et qui est basé sur l'électromagnétisme. En fait, en approchant ses deux mains d'une antenne, on perturbe le champ électromagnétique et on produit un son, ce son qui fait ouh, comme ça, un son un petit peu éthéré. Et là, on a une des bases vraiment de la musique électronique, c'est effectivement ce caractère inouï et cette capacité de son jamais entendu jusque-là à essayer de représenter l'impalpable, le lointain, le cosmique, notamment parce que ça a été utilisé pas mal dans certains films, dans certaines BO de films de science-fiction des années 50 et 60.
Oui, et puis le fantomatique presque. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un fantôme qui va beaucoup se promener dans l'histoire de la musique, le thérémine, puisque on va le retrouver dans des groupes de rock comme Led Zeppelin, qui va l'utiliser sur scène, aussi dans la musique électronique, évidemment, vous l'évoquiez. Alors, Jonathan Fitoussi, est-ce que vous avez été amené à utiliser le thérémine ?
Non, je ne l'ai jamais utilisé, mais j'écoute pas mal d'artistes qui utilisent le thérémine. J'ai utilisé il y a quelques temps, pas cette version-là, parce que là, c'est vraiment l'ancienne version. Après, ça a été réédité par Moog, qui a réédité une version qui est vraiment chouette aussi, que j'ai eu l'occasion d'utiliser en studio. Mais cette version-là, dans son meuble années 20, celle-là, je n'ai pas eu l'occasion. En parlant de ça, ça me fait penser à cette compositrice Clara Rockmore, qui a quand même pas mal travaillé aussi, je crois, conjointement avec Léon Thérémine.
C'est surtout une interprète, oui. la première grande interprète du Thérémine.
Voilà, qui jouait pas mal d'œuvres du répertoire classique, mais au Thérémine. Et du coup, ça donne quelque chose d'assez touchant, parce qu'elle avait vraiment une dextérité. Et de voir des archives de cette femme dans les années 40, 50, jouer des œuvres du répertoire classique avec cet instrument qui est quand même assez dingue, faut le dire, parce que produire des sons sans toucher de matière physique, c'est quand même assez inédit, quoi.
Ce qui est intéressant avec le thérémine aussi, c'est paradoxal parce qu'on reproche encore souvent à la musique électronique de ne pas être associée véritablement à un geste instrumental. La plupart des instruments restent comme des ordinateurs, des claviers, des synthétiseurs à clavier, mais qui ne produisent pas toujours un effet scénique très très parlant pour le public, alors que le thérémine permet vraiment au corps de l'interprète d'incarner le son, puisque une des mains permet de varier la hauteur du son et l'autre son gain, en tout cas son volume. Et c'est effectivement un instrument qui est toujours présent, puisqu'au premier étage, on a plein de nouveaux instruments. Moog vient de sortir ce qu'il appelle le Thérémini, qui coûte moins de 300 euros et qui est un petit appareil beaucoup plus facile à jouer que les anciens thérémines, qui restent assez complexes. Et c'est pour ça aussi que cet instrument n'a peut-être pas eu la même notoriété, peut-être que, ou plutôt la même utilisation que les ondes Martenot, qui est assez proche, et qui, elles, les ondes Martenot ont été beaucoup mieux intégrées aux orchestres classiques. Le thérémine reste très difficile à en jouer, mais avec le thérémini, pour moins de 300 euros, on a un mini thérémine avec un design qui est proche de ce qu'on appelait le design de l'ère spatiale, un petit peu très, très 60s, avec sa coque blanche, et qui fonctionne très très bien, avec aussi des presets qui permet d'approcher les tonalités, les timbres un petit peu plus variés que le thérémine d'origine.
Alors là, la transition, elle est toute trouvée, puisque je crois qu'il y a des ondes Martenot qui se trouvent juste derrière. Une fois encore, Jonathan Fitoussi signalait le joli meuble qui entourait les premiers thérémines produits aux États-Unis. Là, les ondes Martenot, on est encore dans une forme de lutherie très séduisante, même pour la personne qui ne sait pas utiliser l'objet.
Puis en plus, avec les ondes Martenot, ce qui s'associe aux ondes Martenot, c'est aussi les diffuseurs. Là, on en voit un qui est un diffuseur avec des cordes sympathiques, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et il y avait aussi un résonateur métallique qui était comme une sorte de cymbale et qui reproduisait le son. Le tout couplé à la richesse de l'instrument et du clavier, du vibrato, permettait aussi une richesse de harmonique, de rendu vraiment aussi assez étonnante pour l'époque et encore aujourd'hui.
Jean-Yves Leloup.
Donc en fait, dès la fin des années 20, on a quand même ces instruments qui produisent ces sons effectivement très éthérés, très inouïs. David Toup, le journaliste, l'auteur, en parle beaucoup de cette notion d'éther, de cette notion de musique un peu impalpable et qui exprime très bien les ondes Martenot. Et le Térémine, les ondes Martenot ont quand même un répertoire beaucoup plus riche, que ce soit chez Messiaen ou chez beaucoup d'autres compositeurs, disons, modernes de la première partie du XXe siècle.
Nous étions deux amis et Fanette l'aimait. Et la plage est déserte et pleure sous juillet. Le soir, quelquefois, quand les vagues s'arrêtent, j'entends comme une voix. J'entends, c'est la Fanette.
Trouver la transition, puisque Jonathan Fitoussi, vous vous dirigez tout de suite sur un autre objet, toujours en bois, hein, on reste dans les premiers objets.
Ouais. Bah, c'est un instrument français qui s'appelle l'ondioline, qui a été fabriqué par Georges Jenny. Ça a été développé à la fin des années 40, hein, si je ne dis pas de bêtises.
Je crois que c'est dans les années 30. Enfin, celui-ci, ce modèle-là, date de 1940. Donc, dès les années 30, ça existait.
Et voilà, j'ai la chance d'en avoir un qui ressemble à peu près à ce modèle-là. Et c'était un instrument aussi assez avant-gardiste parce qu'il y avait déjà un clavier flottant qui permettait de créer un effet de vibrato en fait, sur les notes. Et sur le devant du clavier, en fait, il y a une petite cordelette en cuivre qui permet d'avoir un aspect percussif sur les sons. Et en fait, il y a même la possibilité, avec les petites manettes qui sont sur le bas, la blanche, de régler des sons de bongo et ensuite de les jouer sur la petite cordelette en cuivre qui est devant le clavier. Et avec le genou gauche, on active la petite manivelle qui est juste sous le clavier et qui permet de régler en fait le volume de chaque note. Et en fait, c'est un instrument qui a été beaucoup utilisé par Jean-Jacques Perret, compositeur aussi français, qui en a fait un peu son instrument de prédilection, avec une musique très ludique, très accessible. Voilà.
Ce qui est intéressant avec l'ondioline, c'est que là, on a aussi l'autre aspect de la musique électronique. On a parlé de ces sons littéralement inouïs, jamais entendus, alors que la fonction première de l'ondioline, c'est de reproduire, en tout cas, Georges Jenny l'imaginait à l'identique, des sons préexistants d'autres instruments à cordes, cuivre, orgue, etc. Il le fait d'ailleurs assez bien, mais il faut bien savoir s'en servir. Jean-Jacques Perret était vraiment passé maître dans l'imitation des sons des instruments d'orchestre, et on peut voir par exemple sur YouTube aujourd'hui des extraits d'émissions américaines des années 50 où il imite à la perfection un violoniste, par exemple, à la perfection. Bien sûr, il y a toujours une différence, mais en tout cas, le public de l'époque, semble-t-il, ne voyait pas, n'entendait pas toujours la différence. Et une grande partie des instruments électroniques, des synthétiseurs, ont souvent été pensés comme des instruments d'imitation très simples des instruments existants. Alors que c'est justement leurs défauts, souvent, qui ont séduit beaucoup de musiciens électroniques. C'est justement leur inaptitude à véritablement imiter les sons qui intéressait beaucoup de musiciens électroniques. Mais on a vraiment ces deux dimensions dans l'histoire des instruments électroniques et de la musique électronique, entre création de sons inouïs, exploration de nouveaux timbres, et puis tentative d'imitation pour produire parfois une musique au rabais, ou d'imitation aussi pour des instruments qui seraient destinés aux amateurs, aux musiciens en herbe, tout simplement. Une grande partie des créations du fabricant Roland, par exemple, ont été souvent pensées comme ça pour le musicien amateur. Donc, imitation et exploration sont les deux dimensions, les deux des dynamiques de la musique électronique. La troisième serait la manipulation du son enregistré, de l'ordre du collage, du sampling et de la manipulation sur bande magnétique ou sur son mémorisé.
Jean-Yves Leloup, on continue à se promener ici dans cette exposition Electrosound à la Fondation EDF. Et on le comprend dans ce que vous dites au travers de chacun de ces instruments. Vous racontez une histoire de l'électronique, on va dire de la physique appliquée à une culture plus large que les technologies qui l'ont construite. Et j'aimerais revenir sur le sous-titre de l'exposition qui est « Du lab au dance floor ». Parce que j'imagine que ce mouvement du laboratoire à la boîte de nuit, ou en tout cas à l'endroit où on danse, il n'est pas naturel pour les acteurs de chacun de ces deux milieux. C'est-à-dire que tous les chercheurs qui ont développé ces premières machines n'imaginaient pas faire danser tout de suite. Et inversement, les gens qui dansent ne pensent pas forcément que cela provient de machines qui ont été pensées par des chercheurs en blouse blanche.
Absolument, l'idée de l'expo, c'est d'avoir exposé une dynamique comme ça qui irait effectivement des avant-gardes à la musique de danse parfois la plus populaire et la plus mercantile qui soit et qui est quasiment la plus populaire aujourd'hui chez les 15-24 ans. Donc on décrit cette dynamique. Alors les origines de la musique électronique, elles sont vraiment dans la musique savante, dans la recherche de l'après-Seconde Guerre mondiale, dans cette nécessité de faire table rase de la musique du passé ou de s'inscrire dans l'héritage de la musique sérielle. Ça, c'était le cas, par exemple, pour tout le laboratoire, le studio allemand de Cologne, par exemple, qui, dont les premières expériences dans les années 50, s'inscrivaient dans une démarche sérielle avant qu'ils ne l'abandonnent et explorent d'autres dimensions. Pour le cas du groupe de recherche musicale, qui est vraiment le premier studio de recherche, là on était dans la recherche sur la musique concrète, donc plutôt la manipulation du son fixé, c'est-à-dire du son enregistré, mais on est dans une tentative typique de l'après-guerre. Après la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale, il faut réinventer la musique, réinventer l'art à partir de la catastrophe, en quelque sorte. Et une autre dimension qui me semble importante et qu'on oublie, c'est que, notamment pour des gens comme Stockhausen en Allemagne et sans doute beaucoup d'autres, ils n'avaient pas l'intention de faire de la musique populaire. La musique populaire, elle restait aussi associée à la tyrannie, au nazisme. On est dans une musique de recherche, de réinvention du monde. Et cette période purement contemporaine, avant-gardiste, elle va durer à peu près 20 ans, entre 48 et 68. Et à partir de 68, les recherches des avant-gardes vont peu à peu pénétrer la musique populaire. Et c'est en 68 que nous, dans l'exposition, on quitte la musique savante pour se pencher sur les musiques populaires. Mais bien évidemment, la musique contemporaine, la musique de recherche, les innovations, elles n'ont pas cessé. La musique électronique expérimentale ou savante, elle existe encore toujours aujourd'hui. Mais on a choisi, parce que l'exposition n'est pas exhaustive, de délaisser cet aspect-là pour montrer comment les recherches de ces avant-gardes ont profondément nourri la culture populaire autour du rock, de la pop, de la disco, de la dance music, de la new wave, de la house et de la techno.
Jean-Yves Leloup, vous vouliez vous arrêter devant ces machines à qui, pour le coup, ont vraiment l'air de machines de laboratoire, dont vous me disiez on ne les voit pas souvent et Jonathan Fitoussi forcément s'y dirige.
Oui, ce sont des machines de laboratoire qui sont donc dans cette première partie de l'exposition qu'on a appelée les fondations. Donc ce sont des machines qui ne sont pas des instruments, ce sont des générateurs de fréquences, des oscilloscopes, des oscillographes qui ont été utilisés pour générer des sons électroniques tout simplement qui seraient par la suite enregistrés soit sur disque souple, soit sur bande magnétique et manipulés et montés. Ce qui est à noter aussi, c'est que ces appareils, ces oscillateurs, ces générateurs de fréquences ont souvent été récupérés à partir du matériel de guerre. La Seconde Guerre mondiale a été aussi un formidable, entre guillemets, accélérateur de technologie. L'autre chose, c'est que finalement, entre 48 et 68, qui correspond à l'époque de ces laboratoires, on a tout inventé. Enfin, ce qu'on fait aujourd'hui avec des logiciels, des ordinateurs, on ne fait pas grand-chose de plus, même si les technologies plus récentes ont été inventées, je ne sais pas, comme la synthèse granulaire, par exemple. Mais au fond, tout est là.
Continent Musique, France Culture, Mathieu Bloquet.
Alors toujours ici en visite au sein de cette exposition Electrosound qui se tient jusqu'au 2 octobre à la Fondation EDF, c'est à Paris. Vous parliez, Jean-Yves Leloup, des instruments qui sont collectionnés parfois par des musiciens. Il se trouve qu'on est avec un musicien qui collectionne des instruments. Je crois savoir que Jean-Michel Jarre est un grand collectionneur de vieux synthétiseurs, de machines. Avec nous, c'est Jonathan Fitoussi. Vers quel instrument est-ce que vous vouliez qu'on se dirige ?
Moi, il y a cet instrument que j'apprécie tout particulièrement, que j'utilise beaucoup dans mes projets, c'est le Synthi EMS VCS3. Moi, j'ai la version qui est juste derrière, en fait, qui est le Synthi AKS, qui est la même version, mais en valise.
C'est celui qui est dans une petite valise.
Exactement, qu'on peut aller voir, et qui est en fait la version juste qui est arrivée quelques années plus tard, mais qui est la même technologie. Et voilà, c'est vraiment un synthé moi, que j'aime beaucoup. Bah, déjà, il a un vrai look avec ce côté valise et ce côté portatif.
On dirait un outil, on dirait un appareil d'agent secret, c'est-à-dire que dans une valise noire toute simple, ça s'ouvre, une partie est couverte de boutons avec un petit tableau dans lequel vous branchez des fiches. Et puis, dans l'autre face, vous avez un clavier tout plat, très rudimentaire. Et il me semble qu'on pouvait voir déjà cet appareil dans l'exposition qui était consacrée à David Bowie à la Cité de la Musique.
Oui, c'est le Synthi AKS, bah, c'est vrai que ça a été énormément utilisé. Juste pour revenir peut-être sur l'historique, on parlait tout à l'heure de Delia Derbyshire. C'est un instrument qui a été développé en Angleterre par Peter Zinoviev, hein, et qui a été aussi beaucoup utilisé par les gens de la BBC Radiophonic Workshop, forcément en Angleterre. Et Delia Derbyshire a travaillé aussi conjointement avec Peter Zinoviev au développement de ce synthétiseur. Moi, c'est un instrument que j'aime beaucoup, et il a la grosse particularité qu'il a, c'est qu'il y a effectivement ce patch là qui permet en fait de relier les éléments entre eux par de simples petites pins en fait qu'on enfiche. Ça permet de diriger un oscillateur vers une enveloppe ou vers un filtre, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas après dans les synthétiseurs modulaires où on a souvent des très grands câbles qu'on doit amener d'un endroit à l'autre. C'est un autre charme aussi. Mais en tout cas là, ça permet sur une petite surface d'avoir une grande accessibilité, une grande visibilité aussi. Voilà, c'est un instrument qui a été énormément utilisé, aussi bien dans la musique savante, beaucoup dans le groupe de recherche musicale et autres, mais qui a été aussi emmené, comme tu disais, beaucoup dans la musique populaire, ou dans le rock, chez les Pink Floyd, David Bowie. Voilà, donc c'est un instrument qui est encore, voilà, qui a une grande, un large panel musical, quoi.
Jean-Yves Leloup, explication sur cette forme de valise du Synthi AKS qui fait vraiment, on dirait, un appareil d'espionnage. Enfin, moi, j'imagine que vous passez à l'aéroport avec ça. Dans les années 60, on vous arrête immédiatement.
Plus encore aujourd'hui, à mon avis. Hein, on a un synthétiseur indonésien qui ressemblait vraiment à une bombe qui a été bloquée à la douane. On n'a jamais pu l'exposer. Donc, alors, en tout cas, c'est un synthé de 72. Et... au croisement des années 60 et 70, les musiciens pop ont besoin d'instruments transportables. Le plus célèbre étant le Mini Moog de Moog, voilà, celui qui est exposé dans l'expo date de 72 et qui permet aux musiciens, c'est le premier, de jouer sur scène, même si d'autres ont essayé avant avec ce qu'on appelle de grands synthés modulaires qui prennent beaucoup de place. Ça reste des instruments qui sont encore un peu difficiles parfois à régler, hein, qui ont des tonalités un peu différentes chaque soir selon la température, selon la manière dont ils ont été transportés. Mais en tout cas, les groupes pop peuvent commencer à jouer, et on a besoin à cette époque de fabriquer des synthétiseurs portables qui coûtent encore très très cher. Hein. Kraftwerk disait toujours que un synthétiseur à cette époque coûtait le coût d'une Volkswagen, voilà, d'une voiture neuve. Et c'est qu'à la fin des années 70 qu'on aura une vraie première démocratisation grâce aux constructeurs japonais des synthétiseurs. Avant la fin des années 70, on est dans un domaine de luthiers qui sont encore très artisanaux. Hein. Tout ça est fait à la main, effectivement, en petite quantité. Et tous ces luthiers, comme Boukla, qui est décédé il y a quelques jours d'ailleurs, comme Arp, comme EMS, vont tous disparaître en quelque sorte à la fin des années 70, parfois même avant. Sous la concurrence des Japonais, mais aussi par exemple pour OMS, Peter Zinoviev, ils ont eu des problèmes purement commerciaux avec leurs distributeurs aux États-Unis qui les ont floués, et donc ils n'ont pas pu continuer plus loin. Et Peter Zinoviev est venu voir l'exposition parce qu'il habite à Paris l'été venu, et c'est un homme qui a repris sa carrière de compositeur il y a 3-4 ans et que j'ai vu en concert il y a quelques jours à Berlin. Alors lui, il ne jure que par les logiciels dernier cri, hein, ça ne l'intéresse pas du tout. C'est des instruments qu'il a pu concevoir dans les années 60, il trouve ça ridicule. Tous ces jeunes musiciens comme Jonathan qui veulent jouer avec ces vieux synthés, lui, il ne croit que voilà, dans les derniers plugins les plus ambitieux. Jean-Yves Leloup, un des premiers genres un peu synthétiques qui est le disco, qui n'a pas toujours été synthétique. Hein. C'est d'abord au début des années 70 une musique très orchestrée, avec vraiment qui est produite avec des grands moyens de studio, des cuivres, des cordes, des arrangeurs, des orchestrateurs, devient très beaucoup plus synthétique à partir de 1978 avec notamment Giorgio Moroder. Et la disco va vraiment pénétrer une grande partie de la pop mondiale, que ce soit en Italie, que ce soit la variété française. Et tout d'un coup, le monde devient disco entre 78 et 82, et parfois un peu plus tard. Et effectivement, là, les synthés, ces modes de programmation séquencés vont durer un temps avant que parfois ces artistes venus de la pop, de la variété, reviennent à d'autres formes plus traditionnelles de la musique. Au début des années 80, vous avez aussi toute la vague qu'on a appelée synth-pop ou pop synthétique ou new wave ou post-punk, que ce soit en France, hein, même si vous écoutez les premiers albums d'Étienne Dao ou Élie Jacquenot, tout d'un coup la pop devient très synthétique, elle allie une forme de francité et de technologie un petit peu froide. Donc vous avez toujours des phases comme ça au cours de laquelle les synthétiseurs, les boîtes à rythme, les sampleurs pénètrent certaines sphères de la musique populaire avant parfois de disparaître et de venir visiter d'autres sphères. À la fin des années 90 aussi, qui est la première grande phase de popularité de la house, de la techno, du drum and bass et ce genre de choses, vous avez plein d'artistes comme ça qui tout d'un coup quand même essayent d'être à la page plutôt et s'immergent dans ce type de production électronique avant de retourner à une forme de tradition. Donc ça, c'est présent naturellement dans toute l'histoire de la musique. Et dès 68, où là, avec l'apparition du synthétiseur Moog, on voit plein de groupes de pop californiens, parfois qui n'ont absolument rien à voir avec la musique synthétique, genre Simon & Garfunkel ou les Byrds. Si vous écoutez bien certains morceaux, il y a un petit peu de synthétiseur Moog, mais ça ne durera pas très longtemps. Même les Rolling Stones achètent un synthétiseur Moog, mais en fait, ils ne s'en servent jamais, on ne l'entend pas sur les albums, et ils le revendront au bout de un ou deux ans.
Alors, on est ici devant un vocodeur, un micro-Korg. Explication sur le fonctionnement de cet objet qui est très associé à Kraftwerk et qui va être très utilisé, et à tel point qu'aujourd'hui on confond un peu vocodeur avec une autre machine qui est l'autotune. Pourquoi est-ce qu'on confond les deux machines, Jean-Yves Leloup?
Ce sont des machines ou des outils ou des logiciels, enfin pour le cas de l'autotune, mais vous avez aussi Melodyne par exemple, qui permettent de transformer la voix. Mais ce qui est intéressant avec ces deux outils, parce que le premier vocodeur, il date de 1939, il a été conçu justement dans les laboratoires Bell, dans les Bell Labs, au début pour plutôt travailler sur la transmission de voix téléphonique et aussi la transformation de la voix pour des codes secrets. Ça n'a pas duré très très longtemps, et c'est dans les années, donc plutôt dans les années 70 et fin 70, dans les années 70 qu'on commence à utiliser ça à des fins musicales. Et vous voyez que c'est un instrument en quelque sorte détourné de son usage. Disco, computer, I am the future. Disco, computer.
Et le plugin, ou le logiciel autotune plutôt, c'est aussi un instrument qui a été détourné de son usage. C'est un instrument dont on peut se servir pour faire chanter juste un chanteur ou une chanteuse, ou alors quand on a fait une erreur de hauteur ou de notes, ce qui peut arriver en studio, on fait une correction qui ne s'entend pas. Mais en poussant les paramètres dans tous les sens, on obtient un effet de transformation synthétique de la voix qui est devenu vraiment un marqueur de la musique populaire des années 2010 dans le rap, dans le rail, dans une grande partie de l'électro, surtout dans les classes les plus populaires. En tout cas, la musique écoutée dans les classes populaires, l'autotune était vraiment devenu un moyen d'apporter une touche très mélodieuse à des voix qui parfois ne le sont pas, et aussi bien sûr à corriger les voix de chanteurs pop mainstream. I'm not loving you way I wanted to. What I had to do, had to run from you. I'm in love with you, but the vibe is wrong, and it haunted me all the way home. So you never know, never, never know. Never know enough till it's over, love. Till we lose control, system overload. Screaming no, 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 no.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça les rend mélodieuses, mais aussi mélancoliques. Il y aurait peut-être un fil à tirer sur l'usage de l'autotune chez des rappeurs très mélancoliques, très tristes, comme je pense c'est vrai chez quelqu'un comme Kanye West, ou les rappeurs de PNL dont on parle beaucoup aujourd'hui. Il y a une forme de tristesse liée à l'usage, à cet usage des voix en tout cas.
Oui, tout à fait. Il y a une tristesse, une mélancolie, une forme éthérée, assez planante, assez ambiante, assez immersive dans une partie de la musique actuelle. C'est pas nouveau, hein. Ça date à peu près depuis 2007, où on a une autre esthétique électronique qui a toujours été présente, mais qui est réapparue sous plein de formes différentes depuis la fin des années 2000. Et vous savez, l'électronique, c'est pas seulement une musique de danse, une musique séquencée, une musique centrée autour du BPM et des mesures à quatre temps. C'est aussi une musique qui part, selon les décennies, a été très planante, comme dans les années 70, et qui a toujours procuré cette sensation de perte dans une forme de cocon, en quelque sorte, cette forme éthérée, cette forme ambiante, hein, qu'a exploré Brian Eno, cette forme planante, et qui revient par cycle. Toute l'histoire de la musique, ce sont des questions de cycle. Et on est aussi dans un cycle très rythmique en ce moment, mais aussi très, très mélancolique et éthéré. I'm not loving you way I wanted to. I bet no one knew. I got no one new. I know I said I'm through, but got love for you. But I'm not loving you.
Alors on quitte le vocodeur pour s'intéresser à une machine qui n'est pas là, mais que vous avez mentionné tout à l'heure, Jean-Yves Leloup, notamment au travers de son inventeur, c'est Donald Buchla, ou Buchla, enfin ça se prononce Buchla, qui est disparu la semaine dernière et qui a été un Américain, un inventeur très important de synthétiseurs, et synthétiseurs que vous avez beaucoup utilisé, notamment le Buchla 200, c'est ça, Jonathan Fitoussi? Voilà.
J'ai eu la chance d'aller enregistrer le Buchla 200, un des rares exemplaires qui existe à Stockholm, en fait, à l'EMS de Stockholm, qui est l'Electronic Music Studio de Stockholm, et qui ont gardé un Buchla System 200, qui est une machine vraiment extraordinaire. Effectivement, Donald Buchla est mort la semaine dernière, et on a enregistré un disque en utilisant exclusivement ce synthétiseur avec mon ami Clément Aurière. Voilà, et c'est un instrument qui est vraiment avec une philosophie très particulière, encore à part dans le monde du synthétiseur, et une sonorité aussi vraiment très propre à Buchla, avec la possibilité de créer des sons avec des textures vraiment presque comme des peaux de tambour, qui n'est pas forcément donné à tous les synthétiseurs. Elle a vraiment une identité très propre, aussi bien dans la philosophie que dans la sonorité qui s'en dégage, quoi.
Puis Buchla fait vraiment partie de ces artisans du son qui vont disparaître à une époque, qui vont disparaître avec l'arrivée de Roland, de Yamaha par exemple, et qui est ressurgi il y a quelques années. On a essayé d'avoir des Buchla pour cette exposition, impossible, tout simplement parce que la plupart des musiciens, des gens qui en ont, s'en servent. Ils en jouent, donc pour eux, il n'était pas question d'en prêter un. Enfin, c'est un instrument qui est beaucoup joué aujourd'hui, qui a été redécouvert par une nouvelle génération dont Jonathan Fitoussi fait partie, et qui connaît une très belle destinée, en quelque sorte.
fallait qu'on s'arrête sur tous ces outils de lutherie contemporaine. Et là, je vois trois morceaux de gelée, jaune, bleu, orange, et est inscrit « Vous pouvez toucher ». Jean-Yves Leloup, qu'est-ce que c'est que cet appareil de lutherie en gelée ?
En fait, nous sommes au premier étage de l'exposition qui s'appelle l'atelier, et c'est un étage où on peut toucher tous les instruments quasiment, on peut tout essayer, et qui est dédié en fait à la lutherie moderne et aux dernières recherches en matière de création d'instruments ou d'interfaces, à l'image de cette Noisy Jelly qui date déjà de 2012, qui a été conçue par deux étudiants de l'école de l'ENSI, l'École nationale supérieure de création industrielle à Paris. Mes deux compères, co-commissaires de l'expo, Uroš Petrevski et Jean-Louis Fréchin, sont enseignants là-bas. Et voilà, deux de leurs étudiants, qui sont Raphaël Pluvinage et Marianne Kovar, ont conçu cette gelée alimentaire qui est une sorte d'interface de contrôle de sons qui sont générés après par un ordinateur. Mais c'était vraiment cette recherche sur les surfaces de contrôle qui est très présente aujourd'hui, parce que beaucoup de musiciens électroniques sont à la recherche d'une nouvelle gestuelle. En tout cas, beaucoup repoussent, enfin ne veulent plus avoir affaire en quelque sorte sur scène à une souris, un écran ou un clavier, et recherchent d'autres moyens de contrôler les ordinateurs. Et on quitte l'exposition Electrosound de la Fondation EDF avec ses sons Noisy Jelly. Je ne sais pas si vous connaissiez ça, Emmanuel Gibello. Hein, c'est assez curieux comme interface, hein, des outils en gel. C'est un prototype de lutherie gélifiée sorti des ateliers de l'ENSI en 2012. Emmanuel Gibello, les instruments avec lesquels vous êtes venu, le Molf et le Phonoff, auraient pu figurer dans cette exposition. Et en général, les gens, vous me disiez, c'est très frustrant parce que il y a deux outils et deux instruments que j'ai créé, que j'ai inventé, mais il y en a un qui retient vraiment toute l'attention et le Phonoff est très négligé. Alors, comment est-ce qu'il marche le Phonoff ?
Alors, le Phonoff, en fait, c'est aussi parce que c'est plus un contrôleur MIDI un peu classique, dans le sens où il déclenche des sons, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme un interrupteur ou un bouton poussoir, donc il est contrôlé avec des aimants, il fonctionne avec des capteurs qui captent le champ magnétique.
On dirait un petit tableau électrique en fait. Hein.
C'est ça, il a été dessiné intégralement à la main, tout le hardware et le software ont été développés vraiment pour lui. Et alors il me permet de déclencher des sons. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec les aimants, on peut créer des glissando, on a une fluidité qu'on n'a pas avec un clavier MIDI, un contrôleur maître habituel. Je n'ai pas créé d'objets, parce qu'en fait l'idée c'était aussi de créer des objets aimantés qui pouvaient générer des boucles, etc. Et puis en fait j'ai développé le Molf derrière. Et là, l'idée, c'était de jouer avec le chaos. C'est pour ça que le choix des toupies est fait, parce que je voulais jouer avec le chaos. Alors, le chaos de la théorie du chaos et non pas...
C'est celle de James Gleick, hein, journaliste américain.
La théorie physique. C'est juste que le chaos, c'est ce qui n'est pas prédictible. Et la toupie est un objet qui, dans son arrêt, est imprédictible. Alors après, il se trouve que ça devient un petit peu plus un objet du hasard aussi, parce qu'on en jette plusieurs, qu'elles se collisionnent et que parfois on rate le lancer de la toupie, parfois on le réussit très bien.
Parfois vous ne les lancez pas aussi, je vous ai vu utiliser le Molf, parfois vous posez juste une toupie, vous la laissez un petit peu, vous la laissez en place, elle tourne à peine quoi.
Oui, alors en fait elle déclenche, alors c'est une dalle en verre qui est dessus. Il y a tout un travail de mapping de sons, c'est-à-dire que je dois accorder le Molf en lui mettant, là il y a 252 sons.
Oui, vous assignez, voilà, sur ce carré sur lequel vous allez faire tourner les toupies, il y a des zones avec des sons assignés à ces zones, et puis la toupie va en déclencher au hasard, hein, en fonction de...
Alors, c'est pas tout à fait au hasard, justement.
C'est un peu prévu.
Parce que, c'est surtout qu'on peut rejouer. C'est-à-dire qu'il y a quand même des pièces qui ont été écrites pour le Molf, et où il y a un trio Toupie Forever, on était trois à jouer sur le Molf, chacun notre partie, et réellement, en répétition, enfin, il y a certaines choses qui changent, et c'est un petit peu pour retrouver ce que l'on a avec un instrument de musique. Parce qu'un pianiste ne rejouera pas exactement toujours de la même manière la même pièce alors qu'il a la même partition et le même instrument. Et c'est un petit peu pour retrouver ça qu'a été créé le MOLF. Après, on a aussi la fonction, on peut très bien lancer plein de toupies et donc ça devient une sorte de cacophonie incroyable. Et
on ensuite... pourrait dire que l'entourage, c'est vraiment la métaphore de votre composition, en tout cas de ce travail avec le MOLF, puisque elle tourne et le son, lui aussi, va entourer complètement l'auditeur. C'est ce qu'on va pouvoir vérifier dans un instant, puisque je vais vous laisser retrouver. On en reparle juste après, mais on voudrait l'entendre. On va écouter une pièce, Do You Want to Play With Me, Zuleyha. Et alors, je précise que l'installation est particulière dans le studio, puisque ont été disposés autour du MOLF et du phoneuf 4 haut-parleurs, donc c'est la quadriphonie. Et il faut encourager les auditeurs à chausser un casque, puisqu'on a placé au centre de ce dispositif une tête binaurale, un micro qui a une forme de visage, de tête d'ailleurs, qui vous fait face quand vous jouez. Vous avez un spectateur impassible, c'est le micro. Donc il y a cette tête qui vous fait face et qui va restituer la spatialisation du son. On vous écoute, Emmanuel Gibello, Do You Want to Play With Me, Zuleyha.
Do You Want to Play With Me, Zuleikha? Ça, c'est un extrait d'une de vos créations sonores, Emmanuel Gibello, et qu'on vient de vous entendre jouer donc avec le MOLF. Emmanuel Gibello, vous avez une formation qui est passée par des écoles de design, d'architecture, ainsi qu'en art plastique, puis ensuite le conservatoire. À quel moment est-ce que vous commencez à développer vos propres machines, vos propres outils?
C'est en 2009, je crois. 2009, oui, je participe à la Friche de la Belle de Mai. Donc, mais c'est une exposition collective avec énormément de plasticiens. Et j'ai pas du tout envie de faire une performance que je joue moi-même. Enfin, je me dis, il faut que je laisse quelque chose d'un peu pérenne. Et donc, j'invite François Parra à venir jouer une pièce. Et c'est en discutant avec François Parra, en fait, qui me dit, mais tu devrais développer tes propres instruments, parce que c'est vrai que tu es limité, là, c'est vrai que c'était assez frustrant. Je me dis, à ce moment-là, je veux faire de la musique avec de la toupie, avec des toupies, mais je mets très longtemps à réussir à trouver des gens qui y croient. Imaginer un instrument qu'on ne contrôle pas, c'est quelque chose d'étonnant pour les développeurs. Enfin, je pense que ça questionne beaucoup de choses. Mais moi, c'est vraiment un matin, je me réveille et je me dis, je veux faire de la musique avec une toupie. Donc, j'imagine plein de choses. J'utilise des claviers d'ordinateur que je dépouille et pour essayer de jouer avec les lettres, parce qu'on peut assigner des lettres à Ableton Live. Enfin, j'essaye plein de choses. Donc, entre temps, je pense au phonoff et je pense que ça m'a permis derrière de pouvoir développer le MOLF. Voilà.
Alors Emmanuel Gibello, je voulais vous faire entendre la voix d'une autre compositrice qui est présentée dans l'exposition Electrosound, et laquelle c'est Daphné Oram.
This is the very latest development, Oramic's graphic sound, produced not by electronic generators, nor by musical instruments, but by drawing graphs.
Le Oramic's graphic sound n'est pas produit par un générateur électrique ni par des instruments de musique, mais par le dessin de graphique que l'on développe dans un ordinateur et qui traite ces informations et en produit des sons. C'est une invention qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Au fur et à mesure, je découvre une nouvelle façon d'écrire la musique et je trouve cela absolument fascinant.
La compositrice anglaise Daphné Oram, probablement en 62, après qu'elle a mis au point sa machine Oramix, conçue en 57. Cette archive, on n'a pu la retrouver que sur un site anglais qui lui est dédié, parce qu'il n'y a quasiment aucune documentation, j'entends des interviews, des reportages radio ou télévision, sur ces pionnières de la musique électronique. Dans l'exposition Electrosound, on peut voir un portrait qui est consacré à Daphné Oram. Il est, je crois, fait mention de Delia Derbyshire, mais pas ou peu de choses sur sûr la première virtuose du theremin, Clara Rockmore, qui était l'une des premières grandes interprètes du theremin. Peu de choses qu'on a pu trouver aussi sur Suzanne Ciani. Comment expliquer comme ça que ces femmes qui ont été pionnières de la musique électronique soient si peu présentes aujourd'hui? Alors, elles sont mentionnées dans cette exposition, mais vraiment quand on cherche des traces de la documentation sur elles, assez peu de choses. Emmanuel Gibello.
Je pense que c'est quand même assez français. Je n'ai pas d'explication. Tout ce que je sais, c'est qu'au Canada, ça n'est pas le cas. En Allemagne, ce n'est pas le cas.
Italie non plus.
En Italie. Ah oui, j'ai joué en Italie. Non. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas su. Mais même en Asie, où pourtant la place de la femme n'est pas forcément simple, au Japon ou en Corée. À chaque fois que j'y ai été invitée, il y avait une représentation féminine et on était considérés comme des
compositeurs
normaux.
Comme les autres.
Voilà, c'est ça. Après, moi, je suis pas pour le fait de faire des choses uniquement féminines mais je trouve que ça manque un petit peu de parité, effectivement, en France.
Alors, on entendait Daphné Oram parler de nouvelles façons d'écrire la musique, et forcément, quand on trouve de nouveaux outils, mais je reste sur le mot écriture, puisque votre travail est nourri de matières littéraires, Emmanuel Gibello, Beckett, Philippe Kédic, Murakami. La première fois que vous avez intégré un texte à votre travail de composition, c'était lequel ?
Le premier qui me vient en tête comme ça, c'était une pièce que j'ai jouée au Placard. C'est un festival qui existe depuis 99, qui a été créé par Eric Minkinen. J'ai deux amis qui sont des plasticiens, qui font partie du collectif 1.0.3. Et ils sont jumeaux, sont deux frères jumeaux, et qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais qui ont la même voix. Et c'est très troublant parce que la première fois que je les ai, lors d'un dîner, j'en avais un à droite, un à gauche, et ça me faisait une stéréo étrange parce que c'était pas, ils disaient pas la même chose, mais c'était exactement la même voix. Et donc j'ai eu très envie de créer une pièce avec leur voix. Donc je leur ai fait lire un extrait de L'Innommable de Beckett, enregistré chacun de leur côté, une fois dit normalement, une fois dit en chuchotant. Et leurs compagnons respectifs et compagnes respectifs s'y sont trompés, en fait. C'est-à-dire que vraiment, mais même eux, je crois qu'ils ne savaient plus qui était qui. Après, c'est toujours un peu imbriqué. Enfin, comme je lis énormément, ça m'inspire beaucoup. Enfin,
Et ça rentre vite dans vos compositions.
Voilà.
Je demande toujours à mes invités d'apporter un disque, mais cette fois-ci, c'est moi qui vous ai apporté des disques qu'on a choisis dans la collection vinyle de la discothèque de Radio France, Emmanuel Gibello. Et je vous proposais d'en choisir un ou deux, vous nous direz ce qui retient votre attention. C'est dans le sac qui est juste devant vous, je vous laisse l'ouvrir.
Big Science de Laurie Anderson. Alors moi, j'aime beaucoup Laurie Anderson et j'ai eu une grande révélation face à son piano où on pose les coudes, enfin qui est un piano où on n'entend rien. Je ne sais pas comment s'appelle cette pièce. On pose les coudes dessus, on met les mains sur les oreilles et là, d'un seul coup, on entend de la musique. Chronos de Bernard Parmigiani. Je pense que ça peut être bien d'écouter.
Alors ça, oui, ça c'est dans une collection, une très belle collection qui était éditée chez Philips.
Prospective 21e siècle. Triptyque électronique de Bernard Parmigiani.
Il y a l'instant mobile, la roue ferris ou l'œil écoute.
Je pense que l'œil écoute, ça peut être. Le titre me plaît bien. Je ne les ai pas en tête, malheureusement, là, toutes, malgré le fait que j'ai son coffret à la maison.
L'œil écoute dans ce disque triptyque électronique de Bernard Parmigiani, et que vous avez choisi, Emmanuel Gibello, dans cette collection de chez Philips, des très beaux vinyles, un prospective 21e siècle, avec ses couvertures argentées aux multiples reflets un peu psychédéliques, tout indiqué pour ce qu'on vient d'entendre, quoi que ce soit pas vraiment psychédélique, mais en tout cas, très bel extrait. Et puis, parmi les autres disques qu'on avait sortis, vous vous êtes arrêté un temps sur un disque italien qui vous intéressait. Mais c'est pas celui-là que vous avez retenu quand même.
Oui, voilà, sur Laurie Anderson. Et puis finalement, dans White Noise, j'ai vu qu'il y avait Delia Derbyshire, et je pense que ça peut être bien d'écouter un petit peu cette compositrice peu entendue.
Et White Noise, qui était paru en 69, une couverture noire avec traversée d'un simple éclair. Et on va passer la face 1, puisque vous vouliez entendre une composition de Delia Derbyshire, Love Without Sound.
On the outside world's one left to right, within ourselves the sun's all the night, just bound by blue with the reality, drifting out to my dream free.
Love Without Sound, tiré de ce disque de The White Noise. Votre choix, Emmanuel Gibello. Continent Musique touche à sa fin. Merci, hein, Emmanuel Gibello. Je rappelle que vous êtes actuellement en train d'écrire le roman de votre projet fiction Je t'accompagne, l'histoire d'amour d'Adred et Souliman. On peut réécouter sur le site des ateliers de la création de France Culture l'épiderme nomade Enquête autour du rêve. Et puis on vous retrouve aussi sur la compilation Rien ni personne, a French Compilation. Ça, c'est en ligne sur Bandcamp. Merci à Jonathan Fitoussi, musicien expérimentateur et qu'on a pu entendre, dont on a pu entendre les machines. Il est édité chez Pan European Recording et chez Versatile. Merci à Jean-Yves Leloup, co-commissaire de l'exposition Electrosound du Lab au Dance Floor. C'est jusqu'au 2 octobre, dernier jour, pour aller découvrir les machines et autres synthétiseurs. Il y a aussi le catalogue de l'exposition qui est aux éditions Le Mot et le reste. Et puis je signale qu'il y aura une nuit blanche Electrosound dans la nuit du 1er au 2 octobre, avec notamment en concert à la Fondation EDF Auclou, Clara Motto, Arnaud Robotini et Philippe Cam. Et puis c'est l'occasion d'annoncer que nous serons aussi en direct pour la nuit blanche sur les quais de Seine, pas loin du Pont Neuf, 3 heures en direct avec François Angelier et Thomas Baumgartner sur France Culture.
Continent Musique, c'est une émission de Mathieu Conquet réalisée par Olivier Guérin, avec ce soir la technique Alex Dang et Clément Daté. Un grand merci à Michael Simon de la discothèque de Radio France et Sandra Escamès de l'INA. Ça continue en musique à la page de l'émission sur franceculture.fr avec les dates de concert, les références musicales, mais aussi et surtout le podcast et la réécoute.
Pour ma part, rendez-vous dans les matins de France Culture dès lundi, mais dans quelques instants, vous retrouvez Mauvais Genre et François Angelier. Alors très bonne soirée à tous.